Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Regards croisés vous propose de vous intéresser à la gestation pour autrui, GPA pour les intimes. Développée depuis les années 70 en Californie, cette méthode permet à un couple d'intention, ayant des difficultés pour avoir un enfant, de faire porter leur embryon par une mère porteuse, une gestatrice. La gestation pour autrui divise les pays de l'Union européenne. Autorisée au Royaume-Uni et en Grèce, tolérée en Belgique et au Danemark, elle reste encore prohibée en Espagne, en Italie, au Portugal, en Norvège, en Suède et en Suisse, qui n'appartient pas à l'Union européenne, mais voisin de nos frontières. En France, le débat fait régulièrement surface, tout d'abord avec la révision des lois de bioéthique en 2009, ensuite avec des recours en justice, le dernier datant de 2007, où des parents d'intention avaient réalisé une GPA en Californie et de retour en France se retrouvaient avec un enfant considéré comme orphelin, clandestin, au regard de la loi française, les parents d'intention n'étant pas reconnus comme les parents officiels. Cette émission vous propose de revenir sur ce sujet délicat qu'est la gestation pour autrui, en croisant le regard du médecin et de l'écrivain, Roger Henrion et Valérie Grantz, bonjour.
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 Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Academy. Pour vous présenter, Valérie Grantz, vous êtes écrivain, journaliste, auteur actuellement de 8 romans, dont L'Enfant des Nuages, paru aux éditions Payot en 2009. Roman qui s'appuie sur les mères porteuses.
Oui, voilà.
Et puis Roger Henrion, vous êtes gynécologue accoucheur des hôpitaux de Paris, membre de l'Académie de médecine, coordinateur du rapport de l'Académie consacré à la gestation pour autrui, rapport présenté en mai 2009. Ensemble, nous porterons notre regard sur les différents protagonistes engagés dans la gestation pour autrui, les mères porteuses, les familles d'intention, les enfants issus de cette technique, et puis, n'oublions pas, le corps médical. Ces parties seront alimentées par des citations des livres de Valérie Gantz, L'Enfant des Nuages. Et je précise que cette émission n'a pas pour but d'être pour ou contre la GPA, mais d'apporter des éléments de réflexion qui, j'espère, le seront intéressantes. Voilà. Au préalable, Roger Henrion, je m'adresse à vous. Au début du rapport, vous écrivez que la démarche de GPA, de gestation pour autrui, se situe sur un terrain différent des autres modes d'assistance médicale à la procréation. Ce n'est pas un progrès scientifique, c'est un changement complet et inédit des relations humaines. Alors le terme, la phrase « ce n'est pas un progrès scientifique » peut paraître curieux.
Non, effectivement, ça n'est pas un progrès scientifique en ce sens que c'est une technique de fécondation in vitro, je dirais habituelle. Il s'agit d'un changement complet et tout à fait inédit dans les relations humaines. On le verra plus tard, la mère qui donne naissance à l'enfant ne sera pas, dans la gestation pour autrui, la mère réelle.
Valérie Gantz, sur quel document vous êtes-vous appuyé pour réaliser ce roman? Parce que j'imagine qu'il y a bien sûr tout un travail de documentation avant d'écrire sur ce sujet.
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait ce travail de documentation, mais pendant l'écriture elle-même, parce que le roman est avant tout quelque chose d'assez intuitif. J'ai eu des enfants, je les ai portés, et je voulais essayer de rentrer un peu dans la peau et dans le ressenti de la mère porteuse. Alors, j'ai commencé à élaborer un schéma et à écrire ce livre. Et ensuite, bien sûr, c'est peut-être pas le terme d'appuyer, j'ai étayé en fait le discours et j'ai voulu valider en fait tous ces éléments intuitifs par des choses qui existent vraiment. Donc bien sûr, les livres de Geneviève de Lézy de Perceval qui sont extraordinaires et qui expliquent parfaitement tous les cas cliniques et tout ce qui s'est passé, toutes les questions qui se posent. Un livre qui s'appelle aussi « Les enfants du don » qui pareil raconte en fait des histoires et raconte tous les éléments posés. Un livre qui a été écrit par les personnes que vous avez citées et qui moi a soulevé une question qui m'a beaucoup choqués, beaucoup perturbés, ils ont parlé du droit à l'enfant. Et ayant des enfants, je ne peux pas concevoir qu'on parle de droit à l'enfant. Et ça a vraiment créé chez moi une réaction très très forte. Du coup, j'ai effectivement après recherché des témoignages de personnes qui pouvaient ou non avoir des enfants, qui carrément avaient des positions très tranchées. Certains étaient complètement pour, certains étaient complètement contre. Et ensuite, ramener toute cette matière au sein de mon histoire et au sein de mon ressenti de femme et de mère.
Et nous allons le voir tout au long de cette émission. Commençons, si vous le voulez bien, par les mères porteuses, les gestatrices. Hein, c'est le terme utilisé par l'Académie de médecine, Roger.
C'est exact. Les gestatrices, mais je dois dire qu'il faut distinguer dans les gestatrices, d'une part, les mères qui uniquement prêtent leur utérus pendant 9 mois et qui sont vraiment des gestatrices, et d'autre part, celles qui non seulement prêtent leur utérus, mais fournissent aussi l'ovocyte. Et à ce moment-là, on peut parler véritablement de mère porteuse.
Alors, dans votre roman, Valérie Gans, vous écrivez, donc là c'est la voix de Clotilde, hein, vous nous parlerez aussi un peu des personnages de votre roman, la voix de Clotilde. « Je ne le faisais pas pour l'argent, même si les 18 000 dollars que j'allais toucher représentaient pour nous une grosse somme, mais ce que je faisais, c'était un don et je n'attendais rien en retour. » Nous allons pouvoir aborder les motivations de ces mères, de ces mères porteuses, gestatrices. Roger Orion, je m'adresse à vous, quelles sont leurs motivations ?
Alors les motivations sont de différentes sortes. La plus habituelle, je dirais, est celle du don. Du don, vraiment, que ces femmes cherchent à faire à d'autres femmes qui sont dans la souffrance. Et elles sont portées vers l'altérité. Et la deuxième motivation, ce sont des femmes qui, au contraire, ont souvent subi des inconvénients au cours de leur vie, des difficultés, soit parce qu'elles ont abandonné un enfant, soit parce qu'elles ont fait des interruptions volontaires de grossesse et qui cherchent une réparation. La troisième catégorie, qui d'ailleurs recoupe les deux autres, ce sont des femmes qui aiment être enceintes. Elles se sentent épanouies au moment de leur grossesse et tout compte fait, elles se disent pourquoi. Pourquoi ne pas faire profiter à quelqu'un d'autre du sentiment de plénitude que nous avons ? Enfin, la dernière motivation qui malheureusement apparaît en particulier dans certains pays, c'est la motivation financière qui ne peut pas être mise de côté.
Valérie Gans, parlez-nous de ce personnage Clotilde donc, qui vit en Californie et qui donc a ce côté altruiste pour le coup de faire un don en fait.
Oui, en fait donc Clotilde est la mère porteuse, c'est une femme noire, elle a déjà un enfant, je pense que c'est important et on le dit souvent, les femmes qui sont des mères porteuses a priori doivent déjà avoir eu leur propre enfant de manière à ne pas avoir envie de s'accaparer l'enfant qu'elles vont mettre au monde. Et elle est exactement dans ce cas-là, elle est dans le cas du don, c'est de l'altruisme. Elle est aussi dans le cas évoqué par le professeur Henrion, elle aime être enceinte, elle se sent bien, elle plaît à son mari en étant enceinte, donc c'est quelque chose d'important pour elle. Elle est plus femme en fait quand elle est enceinte, enfin quand elle est en train de devenir mère, qu'en temps normal. Et oui, elle se dit « je peux faire ce cadeau à une autre femme ». Alors, il y a une autre chose aussi, c'est que Clotilde fait cette réflexion et on revient aussi à la... C'est pas une motivation économique, mais elle, ça va être plus le contraire. Elle se dit « j'aime être enceinte, je voudrais être enceinte, je n'aurai pas les moyens d'élever un autre enfant. Et donc, si jamais je porte un enfant, ce sera pour quelqu'un d'autre parce que je ne pourrai pas le garder. » Alors, voilà l'état d'esprit dans lequel est Clotilde au début, finalement, quand elle accepte d'être mère porteuse. Après, on voit que ça change un petit peu.
C'est le début, justement, et puis les choses évoluent, c'est-à-dire qu'après avoir donné naissance à cet enfant, elle éprouve l'envie de le retrouver. Roger en est-ce qu'on a des études, est-ce que l'on en a une suite face à ces mères porteuses ? Que deviennent-elles ? Quels sont leurs sentiments après ? N'y a-t-il pas un sentiment d'abandon ?
Alors, en principe, ça paraît étonnant, mais il est possible d'avoir une grossesse, de la mener à terme, sans vouloir véritablement l'enfant. On connaît ce sentiment, en particulier dans certaines études sur le déni de grossesse, sur l'accouchement sous X. On sait très bien que pour être mère, il faut le devenir. On ne naît pas vraiment, la femme ne naît pas mère, elle doit vraiment le devenir. C'est-à-dire qu'en dehors du processus physiologique de la grossesse, il faut une maturation psychique de telle manière qu'à la naissance elle se sente réellement mère. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important.
Mais par exemple sur l'aspect physiologique, c'est-à-dire que quand on donne naissance à un enfant, il y a l'allaitement qui fait suite, alors on va se poser des questions toutes alors, simples. Là, est-ce que la mère porteuse va allaiter l'enfant et cet enfant ne va-t-il pas reconnaître en cette mère porteuse pour lui sa véritable mère ?
C'est voilà. Tout à fait vrai parce qu'il y a chez ces mères qui à l'origine paraissent devoir convenir au rôle de mère porteuse. Eh bien, il y a certaines femmes qui peuvent changer d'avis, c'est-à-dire au cours de la grossesse, elles sentent l'enfant bouger. À l'échographie, puisqu'il y a 3 échographies au cours des grossesses en France, elles voient l'enfant. Il se tisse des liens tout à fait subtils entre la mère et l'enfant qu'on connaît encore mal. On connaît bien la sensorialité du fœtus maintenant, le goût, l'olfaction, etc., qui apparaissent au cours des derniers mois de la grossesse. On connaît encore assez mal, mais indiscutablement, il se tisse des liens. Et à ce moment-là, la femme peut changer d'avis. Même si à l'origine elle était tout à fait convaincue de pouvoir donner l'enfant, après la naissance, alors se pose le problème de l'allaitement, ce qui n'est pas simple. La mère la gestatrice doit-elle ou non allaiter, les Anglais ont été jusqu'à provoquer une montée laiteuse chez la mère d'intention pour qu'elle puisse allaiter l'enfant. Mais cela pose indiscutable. Et certaines femmes, à ce moment-là, se reprennent et disent « Non, tout compte fait, je voudrais bien garder l'enfant ». Et c'est là où la législation qui serait éventuellement adoptée est fondamentale, parce que il y a, on en parlera peut-être tout à l'heure, la législation anglaise et la législation grecque, avec des conséquences fondamentalement sur la suite des événements.
Alors, on le voit dans votre livre, tout à fait, c'est, vous expliquez donc Clotilde avec cet enfant qui lui chante une chanson en peul, et cet enfant semble reconnaître cette chanson quand elle retrouve, parce qu'on ne va pas te raconter toute l'histoire du livre, mais elle retrouve cette petite fille, elle devient la nourrice. D'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'on parle même de nounou déjà pour les mères gestatrices. Donc, elle devient véritablement la nourrice de cette fille lorsqu'elle revient dans la maison, la cellule familiale de cette famille d'intention. Et en chantant cette chanson, cette fille semble reconnaître. Là, c'était votre intuition ou pareil, vous aviez fait des recherches sur les prédispositions des enfants à reconnaître leur mère
Là, c'est très, très intuitif. Puis c'est même du vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai une fille à qui j'ai fait entendre... Enfin, j'écoutais une certaine musique quand j'étais enceinte, quand je l'ai portée. Et je me suis aperçue après qu'elle la reconnaissait. Et c'était incroyable. Et effectivement, dans l'histoire de Clotilde, qui en plus... et d'un horizon différent, elle a cette musique en fait que l'enfant va reconnaître, et puis elle a aussi une espèce de balancement, je dirais, elle a une espèce de mouvement, elle a une rondeur, elle a quelque chose à laquelle l'enfant, en fait, c'est l'animalité finalement de cette femme et le lien animal qui lie cette femme et cet enfant qu'elle a porté, parce que 9 mois c'est pas quelque chose d'anodin, et c'est ça qui ressort après. Et en fait, effectivement, ça passe par la musique, mais ça va passer aussi par l'odeur, ça va passer par le goût, ça va passer par le mouvement, par tout un tas de choses qui fait qu'effectivement il y a une reconnaissance entre ce bébé et la femme qui l'a portée.
Professeur Henrion, vous avez parlé du Royaume-Uni, vous avez parlé de la Grèce. Alors justement, venons-en un peu à ces législations que l'on regarde, parce que ce sont des pays voisins du nôtre, et sur lesquels peut-être on pourrait s'appuyer pour, à notre tour, légiférer sur la gestation pour autrui. Quels sont les aspects, on va dire, positifs, intéressants, et quels sont les aspects sur lesquels c'est encore un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu embryonnaire?
Alors, il y a des aspects intéressants. Il y a d'abord des pays qui interdisent formellement la gestation pour autrui. Alors, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne. Et puis, il y a ceux qui tolèrent ou n'interdisent pas, c'est subtil, la Belgique, les Pays-Bas, parce qu'ils n'ont pas de législation, ils s'arrangent avec la législation, ou ils la raccrochent à la législation d'adoption, comme au Danemark et la Finlande. Et puis, il y a des pays qui ont fait des législations, en particulier l'Ukraine, mais surtout l'Angleterre et la Grèce. Alors, l'Angleterre, le jugement judiciaire se produit après la naissance de l'enfant. C'est-à-dire qu'au cours de la grossesse, c'est la gestatrice qui est responsable de tout ce qui se produit pendant la grossesse. À l'accouchement, elle est réputée la mère de l'enfant. Et au bout d'un certain temps, de 6 mois exactement, l'enfant est en principe élevé par le couple d'intention. Et la mère abandonnant son enfant au bout de 6 semaines environ, eh bien, il y a un nouvel acte qui est fait, c'est le parental order, un nouvel acte législatif qui déclare le couple d'intention véritablement parent de l'enfant. Donc, dans cette solution anglaise, c'est la mère, c'est la gestatrice qui prend toutes les décisions. On pourra en parler tout à l'heure, elles sont très importantes au cours de la grossesse. Et elle peut les imposer au couple d'intention. En Grèce, c'est tout à fait différent. Le processus judiciaire précède le transfert de l'embryon. Et à ce moment-là, c'est le couple d'intention qui est responsable de tout ce qui se passe au cours de la grossesse. La mère, la gestatrice, la mère porteuse, mais c'est la gestatrice, n'a pas, en principe, droit à la parole. Et l'enfant né est vraiment né du couple d'intention. C'est-à-dire, d'emblée, avant le transfert, le couple d'intention est réputé le père et la mère. Il y a en Grèce 6 mois de délai pour revenir sur sa décision pour la gestatrice si on se rend compte qu'elle a fourni l'ovocyte, qu'elle a donné l'ovocyte. À ce moment-là, c'est une procréation assistée, c'est une mère porteuse et les Grecs reviennent sur la décision. Et la mère, à ce moment-là, peut changer d'avis et reprendre son enfant.
La différence entre la FIV, hein, la fécondation in vitro, et puis quand il y a donc ce don d'ovocyte. Dans votre livre, Valérie Gantz, l'histoire ne se situe pas au Royaume-Uni et encore moins en Grèce. Le début de l'histoire se situe en Californie, en fait. Californie qui correspond, en fait, à l'état pionnier de la gestation pour autrui. J'imagine que c'est c'était une volonté de votre part que de faire démarrer cette histoire en Californie ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est la chose qui paraissait la plus... Enfin, c'est le cas que j'ai rencontré en fait, le plus fréquemment dans tout ce que j'ai pu consulter. Et effectivement, ça paraissait tout à fait adéquat de mettre cette mère porteuse en, fait, en Californie. Et puis en plus, c'était intéressant de voir le mouvement aussi et de voir le fait qu'elle pouvait de Californie venir en France retrouver cet enfant. Voilà, donc c'est effectivement un choix conscient et déterminé.
Professeur Henrion, pour terminer sur cette première partie, on marquera une pause dans quelques instants. La Californie, pionnier, on regarde bien sûr ce qu'ils ont fait. Et à côté de ça, pionnier, et puis en même temps, on se rend compte que le cadre législatif est assez flou, c'est-à-dire qu'on a pris le dessus sur le corps médical et ce sont des agences privées qui gèrent toute cette partie des gestations pour autrui.
Absolument, ce sont des agences privées qui gèrent le problème et le corps médical est un peu dessaisi lui-même. Et il s'agit de contrats de structures privées qui mettent en place, qui détaillent tout ce qui peut arriver au cours de la grossesse, y compris la rémunération de la mère. Et c'est quelque chose de commercial maintenant aux États-Unis, qui évidemment fait beaucoup hésiter, je dirais, du côté des Européens, et en particulier des Français, parce que cet aspect de contrat, que l'enfant soit l'objet d'un contrat, paraît à certains une énormité.
On marque une pause, si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Qui fut vraiment la duchesse de Berry ? Une aventurière ? Une écervelée ? Une sentimentale exaltée par ses lectures ? Dans la biographie que lui consacre Jean-Joël Bréjon, l'auteur l'aborde en héroïne romantique, un portrait pittoresque et attachant à l'image de la duchesse. La duchesse de Berry, romantique ou romanesque, un portrait un jour dans l'histoire à télécharger librement sur canalacademy.com.
Suite de notre émission Regard croisé en compagnie du professeur Henrion et de l'écrivain Valérie Gontz, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons aborder le lien qu'il peut ne pas y avoir aussi, entre la gestatrice, ce qu'on appelle la mère porteuse, mais donc en tout cas la gestatrice, et les parents d'intention. Je m'adresse à vous pour commencer, professeur Henrion. Est-ce que le lien est obligatoire et nécessaire entre la mère porteuse et ses parents d'intention ? Doivent-ils nécessairement se rencontrer ?
Il n'y a pas nécessité d'une rencontre entre la gestatrice et le couple d'intention. Et c'est là que l'on voit que dans le monde actuellement, il y a deux possibilités pour recourir à la gestation pour autrui. Il y a la solution des pays qui mettent en contact d'une part la gestatrice et le couple d'intention. Et là, souvent, c'est par voie de relation, par Internet, par agence et par association. D'ailleurs, il y a des associations de mères porteuses maintenant que le contact se fait. Et habituellement, il y a une entente qui n'est pas mauvaise et qui peut durer, qui au fil des temps...
S'étiole un peu.
Voilà, s'étale un petit peu. Mais au cours de la première année, très souvent, et au cours des années suivantes, il y a encore quelques contacts téléphoniques ou à l'occasion des fêtes. Ça, c'est une possibilité. Et puis alors, il y a une deuxième possibilité, c'est ce qu'on voit en Ukraine et aux Indes, par exemple, où il y a un mur, je dirais, entre, d'une part, le couple d'intention et la gestatrice. C'est uniquement un problème de rémunération et là, il n'y a aucun contact entre les deux. Alors, je dois dire que pour les Européens, d'une façon générale, les Anglais et les Français, la commission sociale du Sénat, cette coupure entre les parents d'intention et la gestatrice est assez difficile à admettre et ils préfèrent grandement qu'il y ait contact, choix, du couple d'intention, choix, je dirais réciproque, hein, du couple d'intention et de la gestatrice, et que cela se passe en dehors de toute convention financière.
Valérie Gontz, je vais reprendre une citation de votre livre, donc toujours sous la voix de Clotilde.
Oui.
Clotilde dit « Ce serait d'autant plus facile que je ne connaîtrais pas la famille », parce que donc elle essaie de s'assurer qu'elle ne va pas avoir de soucis, de regrets. « Ce serait d'autant plus facile que je ne connaîtrais pas la famille. Enfin, c'est ce que j'avais cru au départ. Et personne, ni l'avocat, ni la psy, n'avait rien fait pour me convaincre du contraire. »
J'ai envie de vous faire réagir sur, sur votre propre phrase, sur cet entourage qui a priori semble là et qui au final laisse un peu flotter cette jeune femme.
Oui, parce qu'effectivement, dans le contrat, puisqu'on a parlé de contrat tout à l'heure, et effectivement là il s'agit tout à fait d'un contrat, il est précisé que Clotilde, donc la mère porteuse, ne doit pas savoir qui sont les parents d'intention et ne doit pas savoir non plus qui est la mère biologique, puisque Lola, qui sera la mère d'intention, est aussi celle dont Clotilde va porter l'ovocyte. Donc, en effet, Clotilde, normalement, est dans un système où elle se dit « Je choisis d'être la mère porteuse de cet enfant, je ne sais pas d'où il vient, et quand il sera parti, je ne le verrai plus, je ne serai pas en contact, je n'ai aucun moyen. » Je pense que c'est une espèce de paravent, finalement, qu'elle se met. « Je n'aurai aucun moyen de savoir ce qu'il devient, je porte cet enfant, et au bout de 9 mois, c'est terminé. »
Et pour avoir un meilleur détachement, j'imagine.
C'est pour avoir un meilleur détachement, et pour pouvoir... C'est quelque chose qu'on entend dans les propos, d'ailleurs, de ces femmes qui vont porter des enfants, c'est qu'en fait... elles font le deuil de cet enfant pendant tout le temps où elles le portent. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de s'approprier un enfant et de se laisser se développer un sentiment, un lien, elles portent quelque chose qui, in fine, ne sera pas près d'elles. J'ai failli dire ne sera pas à elles, mais il n'y a pas de sentiment d'appartenance, en fait. Donc, en fait, l'enfant ne sera plus là. Et oui, on parle du contexte psychologique, parce qu'effectivement, cette femme a besoin de parler, cette femme a besoin de savoir si elle est capable de le faire ou pas. Il y a effectivement un contexte, il y a des intervenants en fait dans le contrat qui doivent jauger en fait la capacité à une femme de porter un enfant pour une autre, parce que c'est pas quelque chose d'évident. Il peut se passer beaucoup de choses en 9 mois, et il y a effectivement cette possibilité de rétractation dont on a parlé tout à l'heure. 9 mois, c'est long, et donc cette femme va porter cet enfant pendant 9 mois, elle va le sentir, elle va sentir ce qui se passe, et au bout de 9 mois, la question n'est plus la même. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout de 9 mois, et là, Clotilde, quand elle dit cette phrase, c'est après que l'enfant soit né, et donc c'est effectivement, ça marque toute l'évolution qui s'est passée finalement au cours de la grossesse et juste après la naissance. 9 mois avant, elle s'était dit « je peux le faire », le corps médical, et psychologique, etc., on a dit « oui, ok, cette femme est apte, en fait, c'est ça, et peut être mère porteuse ». 9 mois après, enfin 9 mois et juste après la naissance, les choses sont complètement différentes. Donc effectivement, elle va dire avec une forme de regret, et c'est le début en fait de l'évolution qu'on verra dans le roman, on n'a rien fait pour me convaincre du contraire, c'est-à-dire que j'étais convaincue de quelque chose, et puis voilà, et en fait on n'a pas pris en compte l'évolution possible qui de facto s'est produite.
Professeur Henrion, avant d'en venir quand même aussi à ces mères d'intention, est-ce qu'on est de temps en temps confronté justement à ces gestatrices qui au final ont du mal à laisser partir cet enfant, l'enfant qu'elles ont porté?
Évidemment, comme je vous l'ai dit, il se produit au cours de la grossesse une espèce de maturation, et surtout la femme ressent vraiment son enfant, il se tisse des liens. Donc au moment de l'accouchement et dans les jours qui suivent, on peut avoir vraiment non seulement un baby blues, mais une véritable dépression. La femme se disant « ça n'est pas possible, de tout compte fait, j'ai porté cet enfant 9 mois et je tiens à le conserver ».
Venons-en à ces mères d'intention. Qu'est-ce qui les motive? J'imagine que c'est bien sûr, déjà en tout premier lieu, des problèmes cliniques.
Oui. Alors, les mères d'intention sont en principe des femmes stériles. Et stériles d'une forme de stérilité particulière, c'est une stérilité d'origine utérus. C'est-à-dire, elles n'ont pas d'utérus. Et c'est très important parce qu'elles ont des ovaires normaux, elles peuvent parfaitement avoir un enfant, mais elles ne peuvent pas le porter. Et cela est dû soit à une absence congénitale, c'est un syndrome Meyer-Okutansky-Kuster, enfin un syndrome très connu, où les femmes n'ont pas d'utérus à la naissance. Elles se rendent compte habituellement au moment de l'adolescence, au cours des premiers rapports, parce qu'il y a iatrésie des tiers supérieurs du vagin. Donc elles se rendent compte et elles prennent conscience brusquement qu'elles ne pourront jamais être mères. Il y a aussi l'absence d'utérus chirurgical, c'est-à-dire à l'occasion d'une hémorragie de la délivrance, d'une hémorragie due à un placenta trop inséré, on a pu être obligé de retirer l'utérus de la femme. Et aussi, dans les cas de cancer chez les enfants et les adolescents, et on sait qu'il y a des cancers du col chez les femmes de plus en plus jeunes, chez les adultes jeunes. Donc, d'autre part, il y a aussi parfois des utérus qui sont présents, mais qui sont fonctionnellement tellement détruits qu'ils ne peuvent pas supporter la croissance d'un enfant. C'est le cas des utérus mal formés. C'est le cas des femmes dont la mère a pris pendant toute la grossesse, ou au début de la grossesse tout au moins, du distilbène. C'est le cas aussi des femmes qui ont eu des curetages un petit peu trop rigoureux, rigoureux et qui font que les muqueuses de l'utérus sont abrasées, ça colle, ce qu'on appelle des synéchies. Et ça explique que toutes ces femmes se sentent quand même, non seulement il y a la souffrance de la stérilité. Et Monique Bidlowski, qui est une psychiatre, a dit « Toute la souffrance du monde se déverse dans les consultations de stérilité ». C'est vrai. Mais non seulement c'est une souffrance, mais c'est un sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice parce que c'est d'abord, comme je vous l'ai dit, les ovaires fonctionnent, donc elles ont des ovocytes, elles pourraient être mères. Et d'autre part, il y a une possibilité plus ou moins réussie, plus ou moins importante, de traitement de toutes les autres formes de stérilité actuellement, excepté l'absence d'utérus. Ce qui rend très particulier cette forme de stérilité.
Et puis il y a également les soucis d'adoption, les difficultés à adopter parallèlement.
Alors là, c'est un autre problème, c'est que effectivement, la réaction normale de beaucoup de monde est de dire « mais pourquoi ces femmes n'adoptent pas ?» Or, en fait, l'adoption en France est encore très difficile et devient, je dirais même, de plus en plus difficile. Il y a à peu près 800 enfants à adopter, adoptables en France actuellement. Il y a quelque chose comme 30 000 demandes. Il y a la possibilité de l'adoption internationale, mais il y a de plus en plus de difficultés avec les pays étrangers. D'autre part, on a tendance à nous adresser des enfants dit à particularité, c'est-à-dire des enfants qui sont soit un peu mal formés, soit malades. Par exemple, les enfants qui viennent de l'Europe de l'Est actuellement sont souvent des enfants de femmes plus ou moins alcooliques et qui ont quand même des retards mentaux assez importants. Donc, et d'autre part, le couple d'intention, c'est quand même son enfant. C'est-à-dire qu'il y a eu les spermatozoïdes de l'homme et l'ovocyte de la mère. Donc, c'est quand même différent du processus de l'adoption.
Valérie Gantz, dans votre livre, vous abordez la question du temps, le temps de devenir mère. De nouveau, je vais vous citer. Et donc, c'est Lola qui parle, cette fois-ci, la mère d'intention. Je ne parviens pas à me faire l'idée que cet enfant que je n'ai pas porté dans mon ventre, cette petite fille que je n'ai pas mise au monde, est bien la mienne, la chair de ma chair, mon petit bout à moi. Il me manque 9 mois.
Mais c'est exactement ça, c'est qu'il lui manque effectivement ces 9 mois pendant lesquels elle aurait pu faire la connaissance de cet enfant. Il lui montre cette période dans l'utérus et cette période pendant laquelle le lien dont je parlais tout à l'heure va se créer et dont parlait le professeur Henrion. Ces 9 mois qui sont très très importants. Et en effet, Lola voit arriver cet enfant tout fait, tout fabriqué, et elle a ça entre les bras et elle se dit mais comment je fais ? Comment je fais pour m'occuper de cette chose qui pleure, que je dois nourrir ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je m'en sors avec ça ? Parce qu'elle n'a pas pris elle n'a pas fait connaissance, elle n'a pas pris l'habitude d'avoir cet enfant. Et oui, il manque vraiment ce temps-là. Et je pense que c'est le temps qui manque à Lola et le temps en trop pour Clotilde, d'une certaine manière. C'est-à-dire que Clotilde, elle, s'est attachée à cet enfant pendant 9 mois, quand Lola, de son côté, n'a pas eu ces 9 mois pour faire connaissance avec l'enfant.
On a l'impression, en lisant votre livre, qu'en fait, il lui manque cet instinct maternel qui se crée au fur et à mesure de la grossesse.
Oui, je reviens sur, effectivement, l'animalité. Je crois que dans la grossesse, il y a quelque chose, oui, de très animal, de très naturel qui se passe, et Lola ne l'a pas. Et Lola n'est pas, parce que j'imagine que certaines femmes sont des mères aussi. Avant même d'avoir des enfants, elles sont des mères dans l'âme et tout. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on n'est pas mère. Je pense qu'on le devient, d'ailleurs, j'ai dû le dire. Donc, effectivement, je pense qu'elle n'a pas ça. Et du coup, elle se retrouve face à un être et elle est complètement démunie.
Vous faites dire aussi à Lola, parce qu'à un moment donné, donc, la vérité éclate, elle est face à Clotilde, qui est donc la mère porteuse. Et Lola dit, c'est moi la vraie mère, ce sont mes ovocytes.
Ben oui.
Alors, qui est la vraie mère ?
Bah c'est ce problème, c'est tout. Oui, c'est tout le problème.
C'est toute la question. C'est toute la question parce que dans les arguments contre la gestation pour autrui, il y a la marchandisation du corps humain, il y a l'asservissement du corps de la femme, il y a le fait d'abandonner sciemment l'enfant, mais il y a surtout la dissociation entre, d'une part, la grossesse et la conception, et d'autre part, la filiation. Et comme je l'ai dit au début de notre entretien, la mère qui accouche n'est plus la mère. Et c'est le fond de la législation occidentale.
Alors, pour terminer sur ce sujet, je vous reprends aussi vos propos, Valérie Gantz, où à la fin du livre, donc, c'est Lola qui parle et qui dit « Aux yeux de l'État français, ma fille n'est pas ma fille. Pipo, donc son mari, en est le père légal dans la mesure où il est son géniteur et qu'il l'a reconnue avant la naissance. Elle figure même sur son passeport. Mais moi, je n'ai aucun lien avec elle et le fait que je sois sa mère génétique et d'intention ne signifie rien pour la loi française. La filiation paternelle de Gaïa est celle d'un enfant adultérin, a dit l'avocat. Et l'avocat dit, dans l'état actuel de la loi, je ne peux rien faire pour vous, vous n'êtes pas sa mère. Est-ce que vous êtes appuyé justement sur la Cour de cassation qui, en 2007, avait cassé les deux premiers jugements suite à une affaire en 2007?
Oui, bien sûr, c'est justement là-dessus. Et ça a été... Mais ce n'est pas le seul cas, c'est le cas le plus récent. Mais vous avez d'autres cas qui, effectivement, racontent la même histoire. Et c'est exactement pareil. C'est effectivement, cette femme n'est pas la mère, elle n'est pas reconnue. Et l'histoire de la Cour de cassation était... En plus, c'était intéressant parce que ça venait juste au moment où je terminais l'écriture du livre. Et effectivement, on a d'abord eu la Cour d'appel qui a dit... c'est l'histoire des deux jumelles. Donc ces deux jumelles peuvent être reconnues comme étant les filles de la mère, etc. Et ensuite, la Cour de cassation a dit non. Et il me semble même que le motif invoqué, c'était le fait de déranger l'ordre public. Donc voilà. Donc effectivement, c'était là-dessus que je me suis appuyée.
On marque une pause, si vous voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission. À tout de suite.
Il se situe à côté de Bordeaux. Le château de la Brède est le lieu où vécut Montesquieu. Retrouvez avec Olivia Battistello la magie d'un lieu d'exception ainsi que la vie du philosophe et académicien dans l'émission La demeure de Montesquieu. Sans plus attendre, canalacademy.com vous ouvre les portes de la philosophie.
Suite de notre émission Regards croisés en compagnie de Valérie Gantz et du professeur Roger Henrion, dans cette dernière partie d'émission, je vous propose d'aborder les troisièmes protagonistes qui sont les enfants. Les enfants qui sont le résultat de cette gestation pour autrui. Est-ce qu'il existe des études sur ces enfants? Que deviennent-ils? Est-ce qu'ils développent des retards ou autres, professeur Henrion?
Il existe des études, en particulier aux États-Unis, puisque la gestation pour autrui date de 30 ans. Malheureusement, il manque presque toujours une évaluation psychologique de l'état des enfants, surtout à partir de 7 ans, 10 ans, etc. Il y a une étude anglaise qui est très bien faite par une psychiatre anglaise qui a comparé 4 groupes. 3 des enfants nés par des procédés don d'ovocytes, don de sperme, gestation pour autrui, et des enfants nés normalement. Et elle a prouvé au bout de 7 ans maintenant, on a 7 ans de recul, que tout compte fait, les enfants paraissaient se porter bien, physiquement et psychologiquement.
Valérie Gantz, vous, dans votre livre, vous n'abordez pas cette question-là. Peut-être que vous l'aborderez dans un prochain livre sur la suite de cet enfant. Mais cette petite fille, Gaïa, c'est son prénom, elle semble quand même perturbée entre ces deux femmes.
Alors absolument, elle semble perturbée parce que, en fait, elle reconnaît la femme qui l'a portée. Et très petite, elle fonctionne à l'instinct. Un bébé, c'est vraiment ça. Elle fonctionne vraiment de manière très instinctive. Donc, c'est effectivement ce qui se passe de manière spontanée de la part de Gaïa. Alors, en effet, j'ai vraiment envie de m'interroger sur ce qui va se passer après, et carrément après. C'est-à-dire, au-delà de 7 ans, au-delà de 10 ans, peut-être 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Quelle histoire va se raconter cette petite fille? Est-ce qu'elle va considérer qu'elle a une mère? Est-ce qu'elle va considérer qu'elle a deux mères? Puisque, bon, la fin du livre est un peu... donne encore des ouvertures. Quelle histoire va-t-elle se raconter pour se construire elle-même? Comment va-t-elle reproduire le schéma? Un jour, si elle veut fonder une famille, comment fera-t-elle? Je dirais, est-ce qu'elle sera suffisamment armée? Ou alors, est-ce qu'elle aura au contraire une espèce de blessure qui va rendre les choses plus compliquées? Quelle va être son attitude elle-même face à la maternité? Je pense que tout ça sont des questions, en effet, psychologiques qu'on peut se poser. Et c'est intéressant d'avoir un recul pour voir comment ces enfants se construisent plus tard.
Professeur Henrion, est-ce que les enfants, à partir d'une dizaine d'années, ou peut-être même avant, sont demandeurs de connaître, si ce n'est pas le cas, de connaître ou de faire la connaissance de leur nounou, puisque c'est le terme aussi employé?
Bien là, on n'a vraiment pas de document. On ne le sait pas. On estime que certains voudront connaître leur nounou s'il n'y a pas toujours eu des relations depuis la naissance, et surtout au moment de l'adolescence. On pense qu'au moment de l'adolescence, qui est un moment quand même très critique dans la vie générale, il y a un problème qui peut se causer. L'enfant peut avoir le sentiment d'avoir été abandonné, nous dit-on. Mais là, vraiment, on n'a pas pour le moment Malheureusement d'ailleurs, parce qu'avec le recul des Américains, si on avait mis en place, s'ils avaient mis en place une évaluation correcte, eh bien on saurait maintenant quel est le devenir vraiment de ces enfants.
Venons-en au corps médical. Alors, vous allez m'arrêter tout de suite, professeur Henrion, si jamais je commets une erreur. Il me semble que dans le rapport émis par l'Académie de médecine dont vous étiez le coordinateur, donc sur la gestation pour autrui, que la partie sur le corps médical est relativement peu présente. Dans votre livre, Valérie Kantz, on voit bien au début qu'il y a un médecin, un psychologue, un psychiatre autour de cette femme, Clotilde, qui sont là sans être vraiment là. Quel est le rôle à donner au corps médical, que ce soit les obstétriciens, que ce soit les psychiatres, professeur Henrion ?
Eh bien, je dois dire que depuis 1988, où il y a eu la dissolution d'une association qui s'appelait Alma Mater par la Cour de cassation, eh bien, l'évolution des gynécologues obstétriciens s'est faite plutôt, je dirais, en faveur de la gestation pour autrui. Je dis bien plutôt parce que si l'on prend un gynécologue obstétricien, non des moindres, le professeur Friedman, il est farouchement contre. Donc, il considère que c'est un asservissement de la femme, c'est un esclavage même. Donc, dans l'ensemble, il semble y avoir une maturation du corps des gynécologues obstétriciens plutôt en faveur de la gynécologie. Mais je reste très prudent. Je reste très prudent parce que, en fait, et c'est là où il serait très important, s'il y a une législation qui est mise au point, qu'il y ait quand même des lieux de passage obligés. Ce n'est pas n'importe quel gynécologue obstétricien qui va prendre en charge ce type de femme. En France, je dois dire qu'il y a 3 ou 4 gynécologues obstétriciens qui prennent en charge ces femmes. Voilà. S'ils servent d'intermédiaires, il y a prévu dans le code pénal une sanction qui est 1 an de prison. Donc, c'est quand même quelque chose de...
Ils sont en dehors de la loi.
Heureusement, jamais appliqué. Mais enfin, voilà. Donc, la situation est claire. Quelques gynécologues obstétriciens s'occupent de suivre les femmes qui sont enceintes à la suite d'une gestation pour autrui. L'ensemble évolue plutôt dans un sens favorable, à condition que ça soit strictement encadré et évalué. Et change petit à petit d'avis. Voilà. Mais ça reste encore quelque chose de très, de peu connu dans l'ensemble des gynécologues obstétriciens.
Valérie Kantz, vous parlez plus du psychiatre qui accompagne Clotilde au début. On a l'impression qu'elle est là sans être vraiment là. Qu'elle se met du côté où le vent souffle, en fait. Permettez-moi l'expression. Où la psychiatre, en fait, semble vouloir aller dans le sens encourager. Clotilde, en fait, qui est persuadée de son choix, en l'occurrence, faire le don de son utérus, prêter son utérus.
En fait, oui, ça m'a paru très, très important. Le contexte médical, le gynécologue, etc., était pour moi quelque chose d'évident. Mais ça m'a paru très, très important, dans le cas de cette mère porteuse, de lui donner une assistante psychologique. Mais ça, je pense, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à concevoir qu'on puisse porter un enfant pendant 9 mois. Et au bout de 9 mois... Alors, les termes sont ce qu'on veut, gérer l'abandonner, le donner, le laisser, etc. Et donc, je me suis dit, ça me paraît assez logique, et finalement, c'est la vérité. Ces femmes sont accompagnées, et c'est normal, parce qu'il se passe tellement de choses pendant cette grossesse qu'en effet, psychologiquement, elles ont besoin d'avoir un soutien. Alors, oui, cette psychologue, dans un premier temps, a entériné le fait que Clotilde puisse effectivement être capable de supporter cette épreuve, parce que je pense que c'en est une, et le choc de l'accouchement et le choc de l'abandon de l'enfant. Mais petit à petit, elle la suit, et elle suit les dommages collatéraux et tout ce qui se passe après la naissance. Et là, effectivement, elle est importante. Et là, elle a un rôle qui est effectivement prédominant, parce qu'elle ne peut pas se renier, elle ne peut pas dire j'ai finalement entériné quelque chose qui ne peut pas marcher. Et d'un autre côté, il faut qu'elle gère cette femme qui a un baby blues énorme, qui veut retrouver cet enfant. Et je pense que c'est compliqué.
Professeur Henrion, quel est le regard des psychiatres sur la gestation pour autrui, tout en sachant qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure sur la gestation pour autrui,
alors,
entre les familles.
C'est très particulier, parce que alors, la situation en France à ce jour est quand même encore un peu confuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, parmi les psychiatres, nous avons Delésy de Perceval qui est tout à fait pour, et nous avons Caroline Hédiachef qui est tout à fait contre. Si l'on prend les philosophes, nous avons Elisabeth Badinter qui est tout à fait pour, et nous avions Sylviane Agazinski qui est tout à fait contre. Si nous prenons les politiques, alors là, c'est la même chose. Le Sénat est plutôt pour, la commission, et l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques est plutôt contre. Et dans tous les segments, je dirais, dans le public, c'est la même chose. On a une évolution favorable, mais le panel de citoyens qui ont été réunis dans 3 ou 4 villes françaises a été contre. Donc, on trouve cette dualité à tous les niveaux, y compris au niveau des psychiatres.
Eh bien, je vous remercie. Je vais redonner le titre de votre livre, Valérie Gantz, « L'enfant des nuages » paru aux éditions Payot en 2009, et puis le rapport de l'Académie de médecine que vous avez coordonné, professeur Henrion, « La gestation pour autrui » paru en mai 2009, mis à disposition sur le site de l'Académie de médecine, très intéressant, très informatif. Vous donnez aussi des chiffres sur ces femmes qui n'ont pas d'utérus ou sont atteintes de maladies particulières et qui font qu'elles sont demandeuses de cette pratique de gestation pour autrui. Merci à tous les deux, et puis peut-être une prochaine fois pour la suite de votre livre, Valérie Kant, c'est peut-être pour avenir la gestation pour autrui, une législation en faveur ou contre, nous en reparlerons. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.